Le pendule idéal.
Je n'avais plus rien à apprendre dans cet endroit. Je profitais du tohu-bohu pour arriver à la statue de Graham. Le socle était encore ouvert. J'entrais, descendis au bas d'un escalier étroit. Je me trouvais sur un petit palier éclairé par une ampoule sur lequel s'ouvrait un escalier à vis en pierre. Et arrivé à la dernière marche, je m'enfonçais dans un couloir aux voûtes plutôt hautes, faiblement éclairées. Tout d'abord, je ne sus pas où j'étais et d'où provenait le clapotement que j'entendais. Puis mes yeux s'habituèrent. Je me trouvais dans un conduit des égouts. Une sorte de main courante m'empêcherait de tomber dans l'eau, mais elle ne m'empêchait pas de sentir des relents dégoûtants entre le chimique et l'organique. Quelque chose au moins était vrai dans toute cette histoire. Les égouts de Paris, ceux de Colbert, de Fantômas et de Decaux. Je poursuivais le collecteur le plus grand, délaissant les déviations les plus sombres et espérant que quelque signal m'aviserait où mettre un terme à ma course souterraine. En tout cas, je filais loin du conservatoire et par rapport à ce royaume de la nuit, les égouts de Paris étaient le soulagement, la liberté, le bon air, la lumière. J'avais une seule image dans les yeux. Le hiéroglyphe tracé dans le cœur par le corps mort de Belbeau. Je n'arrivais pas à trouver à quel dessin ce dessin correspondait. Maintenant, je sais que c'est une loi physique, mais la façon dont je l'ai su rend encore plus emblématique le phénomène. Ici, dans la maison de campagne de Jacopo, parmi toutes ses notes, j'ai trouvé une lettre de quelqu'un qui, en réponse à sa question, lui racontait comment marche le pendule et comment il se comporterait si le long du fil était suspendu un autre poids. Donc, qui sait depuis combien de temps, en pensant au pendule, Belbeau l'imaginait, et comme un Sinaï, et comme un calvaire. Il n'était pas mort victime d'un plan de facture récente, il avait préparé en imagination sa mort depuis longtemps, en ignorant que, persuadé de n'avoir aucun don pour la création, son ressassement projetait la réalité. Ou peut-être pas. Il avait choisi de mourir ainsi pour se prouver à lui-même et aux autres que, même à défaut du génie, l'imagination est toujours créatrice. En un certain sens, perdant, il avait gagné. Ou est-ce qu'il a tout perdu, celui qui se vouerait à cette unique façon de gagner? Il a tout perdu, celui qui n'a pas compris qu'il s'est agi d'une autre victoire. Mais moi, samedi soir, je ne l'avais pas encore découvert. J'allais par le conduit, amen comme postel, peut-être perdu dans les mêmes ténèbres, et soudain, j'eus le signal. Une lampe plus forte, fixée au mur, me montrait un autre escalier de nature provisoire qui donnait sur une trappe de bois. Je tentai le coup et me retrouvai dans une sorte de cave encombrée de bouteilles vides qui s'ouvrait sur un couloir avec deux chiottes. Sur les portes, le petit bonhomme et la petite bonne femme. J'étais dans le monde des vivants. Je m'arrêtai, haletant. C'est alors seulement que je pensais à Lorenza. À présent, c'est moi qui pleurais. Mais elle était en train de glisser loin de mes veines comme si elle n'avait jamais existé. Je ne parvenais même plus à me rappeler son visage. De ce monde des morts, c'était la plus morte. Au bout du couloir, je trouvai un nouvel escalier, une porte. J'entrai dans une atmosphère enfumée et malodorante, une gargote, un bistrot, un bar oriental, des serveurs de couleur, des clients en sueur, des brochettes grasses et des bocs de bière. Je repoussai la porte comme quelqu'un qui était déjà là et serait allé uriner. Personne ne me remarqua, ou peut-être l'homme de la caisse qui, me voyant émerger du fond, me fit un signe imperceptible, de ses yeux mi-clos, un hoquet, comme pour dire « J'ai compris. Passe, moi je n'ai rien vu ».